Ces derniers jours, c'est un peu plus calme dans les épiceries. Les consommateurs ont réduit le nombre de leurs visites et la presque totalité des produits sont offerts en quantité suffisante. Ça, c'est ce que l'on voit. Derrière tout cela, il y a les chiffres, les données. La croissance des ventes a été fulgurante dans toutes les catégories, dans certaines plus que d'autres, bien sûr. J'ai fait le point avec Francis Parisien, vice-président pour l'Est du Canada à la maison Nielsen d'analyse des marchés. Monsieur Francis Parisien, bonjour.
Bonjour, Monsieur Levesque.
Monsieur Parisien, tout est perturbé actuellement dans notre société. Le marché de l'alimentation particulièrement subit des attaques, pourrait-on dire, de toutes sortes. Les gens se sont rués sur les magasins et ça s'explique le fait que les gens fréquente ou est fréquenté davantage les épiceries ou à tout le moins est fait des achats plus volumineux.
Oui, mais en fait, au début de la crise, quand les premières mesures ont été annoncées, on a vu beaucoup de stockage. Dans nos données, en fait, pour la semaine qui se termine le 21 mars, on a vu des taux de croissance avoisinant les 60 %. En fait, dans certaines catégories, on était à 150 %. Donc là, il y a eu beaucoup de stockage. Puis par la suite, par les semaines qui ont suivi, là, ça a baissé. Donc, on voit la courbe des dépenses, des achats fait baisser. Il y a quand même beaucoup de croissance comparativement à l'année dernière. Et là, après le stockage, les gens sont revenus à des niveaux plus normaux. Là, on le voit, il y a une augmentation dans le marché présentement. Les gens ne vont plus au restaurant. Les gens ne lunchent plus au bureau, donc ils vont manger plus à la maison. Alors, on le voit, là, il y a une hausse. La semaine qui se terminait le 4 avril, par exemple, on était à des niveaux qui se compare à Noël, par exemple. Noël, il faut savoir, c'est la plus grosse semaine de l'année dans les supermarchés, les pharmacies et les Walmart. Puis là, la semaine qui se terminait le 4 avril, on était à des niveaux de Noël, alors que les deux semaines précédant ça, là, c'était beaucoup plus élevé encore.
Est-ce qu'il y a des catégories d'aliments qui sont particulièrement visées ou affectées justement par cette demande soudainement plus forte, là?
Ben, écoutez, toutes les catégories sont affectées. Dans les catégories alimentaires, là, par exemple, on a fait beaucoup de bruit sur la levure, mais c'est vrai, la levure, là, on a vu plus que 500 % de croissance. Mais toutes les catégories de cuisson, par exemple, c'est comme plus que 80 % de croissance. La farine, comme je fais souvent la blague, on dirait que tout le monde s'est mis à faire du pain, mais c'est vrai, ça, on le voit dans les données. Les pâtes alimentaires, c'est beaucoup le centre du magasin qui a connu la plus grosse croissance. Il y a des petites exceptions québécoises au niveau des produits périssables. Mais si on regarde au niveau canadien, on le voit, là, au niveau des produits périssables, la croissance est moins élevée que le centre du magasin. Alors, on s'est aperçu en Europe, par exemple, qu'au niveau des fruits et légumes, il y a des consommateurs qui étaient réticents à toucher des produits en vente libre, donc des légumes qui auraient pu être touchés par d'autres gens, qui sont peut-être plus transmetteurs de COVID. Donc, on le voit, les périssables connaissent la croissance, mais à des niveaux moins élevés que les catégories sèches du centre du magasin. Mais les produits surgelés, la grosse croissance, il y en a partout, la croissance. Si vous faites des produits de beauté, c'est moins bonne nouvelle, mais si vous faites de l'alimentation, présentement, vous êtes occupé.
Est-ce que c'est faisable d'établir des tendances à plus long terme sur la base de ce qui se passe actuellement ou c'est vraiment ponctuel dû à la pandémie du COVID-19?
J'en parlais dans un des webinaires qu'on a organisé avec le CETAC. On pense qu'il va y avoir des effets quand même à long terme. Un, il y a du transfert des restaurants vers les supermarchés. Les gens ne peuvent plus aller dans les restaurants. Donc, ils vont prendre cet argent-là et la dépenser en magasin. Là, c'est difficile d'évaluer le pourcentage des gens qui vont retourner dépenser dans les restaurants. Les milléniaux, par exemple, qui vont beaucoup plus dans les restaurants, là, se retrouvent dans les supermarchés, vont prendre goût à cuisiner. J'en parlais avec quelqu'un l'autre fois qui me disait, là, les gens se sont développés des habitudes de cuisine qu'ils vont sûrement garder après la fin de la pandémie. Donc, nous, on croit que les niveaux vont rester plus élevés qu'avant la crise. C'est certain qu'il va y avoir un certain ralentissement. On voit déjà même avec un certain groupe de consommateurs qui, en anglais, ont appelé un cuisine fatigue. Donc, les gens sont déjà un peu fatigués de cuisiner. Mais il va y avoir quand même des nouveaux consommateurs dans les supermarchés qui vont garder ces habitudes-là par la suite.
Il y a beaucoup ce qu'on pourrait appeler un réflexe de survie à la base. Là. Les gens ne veulent pas manquer de nourriture, donc ils se sont dépêchés de stocker, comme vous le disiez au début. Reste à voir ce qui va rester là, de ce réflexe-là là, et des conséquences sur une plus grande habitude de cuisiner à la maison, etc. Là, on ne sait pas encore précisément. Là.
Ben, en fait, c'est ça. On ne sait pas encore précisément. On peut émettre certaines opinions. Nous, on a déjà commencé à regarder là, qu'est-ce qui va recommencer comme avant et qu'est-ce qui s'est réinventé avec la crise. Là, il va falloir voir les mesures de distanciation qui limitent le nombre de visites qu'on peut faire dans les magasins qui limite le fait d'y aller en groupe ou pas, ce que ça va avoir comme effet. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup moins de visites, mais des plus grands paniers. Mais comme je l'ai dit, il y a des consommateurs qui se retrouvent dans les magasins qui étaient beaucoup moins, dont les milléniaux. Donc ça, ça fait quand même augmenter le nombre de visites. Le fait qu'il y a beaucoup de consommateurs présentement qui, au lieu d'y aller 4-5 fois par semaine, vont y aller seulement une fois. Donc, il y a plus de planification, il y a moins d'impulse dans le style « je veux manger de la bavette, je vais le chercher au supermarché ». Là, les gens planifient beaucoup. Donc, ça aussi, ça va avoir des impacts sur la façon que les consommateurs vont consommer plus tard. Et on le suit, on essaie de faire des tendances, mais c'est encore assez difficile. Il va falloir voir les mesures de distanciation qui vont suivre dans les semaines qui viennent.
Je reviens encore avec ma question de survie, oui. Réflexe de survie des consommateurs, des familles. Oui. On ne voulait pas manquer de nourriture, donc on a acheté beaucoup, on a acheté l'essentiel, on a acheté dans toutes les catégories, comme vous le disiez également. Mais est-ce que des phénomènes comme l'achat local, la provenance des produits, l'autosuffisance alimentaire d'un territoire comme le Québec ou le Canada, on peut commencer à vérifier des choses comme ça?
Bon, sur les achats locaux, je me suis déjà fait poser la question. Vous n'aimerez peut-être pas la réponse, mais là, présentement, on ne voit pas une croissance des marques locales. C'est le contraire. En fait, M. Lavac, vous avez déjà vu mes présentations. Là, souvent, je montrais que les plus petites marques connaissaient plus de croissance que les grosses marques. Là, présentement, c'est le contraire qu'on voit dans le marché. C'est les grosses marques qui mènent la croissance avec les marques privées. Pourquoi les grosses marques mènent la croissance présentement? C'est simple. Elles sont plus grosses. Elles sont plus aptes à répondre à la demande. Ils ont des chaînes de logistique qui sont plus habituées de répondre à des grands mouvements comme ça. Ils sont moins facilement out of stock sur les tablettes. Ça, c'est la première raison pourquoi les grandes marques connaissent de la croissance présentement. Deuxièmement, les gens vont pour des produits qu'ils connaissent. C'est pas le temps de passer une demi-heure devant la tablette puis regarder un produit puis essayer de comprendre ce qu'il y a à offrir. On voit de la croissance chez des grosses marques locales bien connues des consommateurs québécois, mais c'est la même genre de croissance qu'on voit avec les grandes marques internationales. Donc là, présentement, pas que j'ai des mauvaises nouvelles, c'est juste que là, on voit la croissance chez les grandes marques, juste parce qu'ils sont plus capables de répondre aux besoins qu'il y a dans le marché présentement. Sur l'autosuffisance, ça va être, nous, c'est difficile pour nous de la voir comme telle. Il va toujours y avoir une importation au Québec. On peut toujours pas faire pousser de bananes, même si l'Islande l'a fait. En fait, je pense que c'est pas dans les plans. Je sais qu'on a vu, par exemple, au niveau des graines pour jardin, il y en a presque plus. Il y a beaucoup de magasins qui sont out of stock, juste à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas assez pour faire la suffisance alimentaire. Je sais qu'il y a des tendances, mais ça, c'est plus difficile pour nous de chiffrer ça, là, présentement.
Donc, c'est pas vraiment un temps où les consommateurs font des recherches et des découvertes alimentaires, là. On s'approvisionne, c'est parce qu'il faut absolument se garantir qu'on a les aliments qu'il nous faut, là.
Ben oui, c'est ça. C'est un peu dommage pour les magasins comme IGA et Metro qui ont investi beaucoup dans leur environnement de magasinage, comparativement à un Supertier ou un Maxi, là, des escompteurs. Donc, un Métro et un IGA qui veut rendre l'expérience de magasinage plaisante. Là, nous, notre but, c'est de rentrer, d'acheter ce qu'on a besoin et de sortir le plus rapidement possible. Donc, on est vraiment là dans un réflexe de prendre le moins de temps possible en magasin. C'est pas le meilleur temps présentement pour découvrir des nouveaux produits.
Tout ça, M. Parisien, bien sûr, tout le monde espère que ce soit temporaire, qu'on revienne à plus de normalité. Deux choses. Comment vous voyez les prochains mois, les prochaines années et les tendances à s'alimenter justement de façon plus sécuritaire, je dirais, en achetant des volumes, en stockant un peu, etc., etc. Ça peut rester. Les gens peuvent garder ce réflexe-là.
Écoutez, Nielsen étant une compagnie internationale, on a accès à des chiffres de ce qui se passe un peu à travers le monde. Là, nous, on s'est tourné plus vers l'Asie où la pandémie semble beaucoup moins avoir d'effet. On a vu que le réflexe de rester à la maison des Chinois, par exemple, des Taïwanais, puis des Coréens, si je me rappelle bien, était de vouloir... En fait, il y avait une tendance à vouloir rester à la maison. Donc, il y avait gardé certains des réflexes de confinement, ce qui fait en sorte que... Là-bas, le commerce électronique est beaucoup plus développé. Donc, le commerce électronique continue de se développer à ce niveau-là. Mais comme les visites en restaurant n'ont pas repris dans ces pays-là. Donc, c'est difficile de faire des projections pour le Canada avec ce qu'on a vu en Asie. Mais il appelle ça le « homebody economy ». Mais avec ce que M. Legault vient d'annoncer, le plan de reprise des commerces, je vois pas comment que ça va s'assouplir rapidement dans les commerces. On demande de garder des distanciations sociales. Il y a des habitudes qui vont rester, ça, on est presque certain, là, l'habitude de confinement va rester chez plusieurs consommateurs.
Donc, il est évident que bien des producteurs de petite et moyenne taille, par exemple au Québec ou au Canada, là, il y a des artisans aussi qui vont devoir faire des efforts énormes là, pour redresser la situation à la suite de cette période de pandémie. Là.
En fait, souvent, c'est en temps de crise qu'ils vont investir. Là, c'est une pensée économique quelconque. C'est pas le temps de lâcher le marché. Il y a beaucoup de croissance. Tantôt, ce que je disais, c'est que les gros avaient le gros bout du bâton présentement dans le marché, mais c'est pas vrai. Là. Il y a quand même la croissance chez beaucoup de marques. Il y a beaucoup de croissance partout. Vous devriez voir les chiffres, c'est phénoménal. C'est pas également le temps d'arrêter d'innover. Il y a des besoins pour des consommateurs présentement. Des consommateurs qui sont pas habitués de se faire de la cuisine, des consommateurs qui sont peut-être tannés de cuisiner, qui vont chercher des solutions au repas. Non, je suis assez positif sur l'avenir. Écoutez, il y a tellement de croissance, il y a de la croissance pour tout le monde. C'est juste qu'au début, la pandémie, il faut comprendre que les consommateurs n'étaient pas habitués à ce nouveau mode d'achat-là, donc ils sont allés vers des marques qu'ils connaissaient peut-être un peu plus, mais quand même, je suis certain. Une compagnie qui investit massivement, par exemple, dans les réseaux sociaux pour se faire connaître, ou dans les médias traditionnels également, peut tirer de son épingle du jeu dans ce marché-là. Vous avez parlé de nouvelle normalité, c'est vraiment ça, c'est une nouvelle façon de faire les choses.
Même les petits, les artisans?
Les artisans, c'est certain que là, vous venez de perdre. Un marché fermier, par exemple, je ne sais pas quand ça va réouvrir. Ça dépend de votre façon de communiquer avec vos consommateurs. Ouais, au niveau des artisans, ça va peut-être être un peu plus difficile. Mais il y a des nouvelles plateformes qui s'en viennent sur le marché ou qui sont déjà disponibles. Les gens utilisent également beaucoup plus le commerce électronique. Nous, on s'attendait à ce que le commerce électronique double dans les deux prochaines années. Nous, on s'attend à ce que le commerce électronique ait doublé pendant la pandémie. Donc, il y a des façons différentes de vendre de l'alimentation présentement.
Bien, écoutez, M. Parisien, des données fort intéressantes et puis des données qui vont probablement s'affiner, se préciser au cours des prochains mois, prochaines semaines.
Oui, on peut s'en reparler. Je pourrais vous donner une mise à jour dans quelques semaines, s'il vous plaît.
Bon, bien, moi, avec plaisir, je vous recontacte et puis on fera le point là, pour voir là, comment les choses se placent, comme on dit.
Parfait.
Merci beaucoup, M. Parisien.
Merci, M. Levaque.
Ici Lionel Levaque. À l'avenir, on ira donc peut-être un peu moins à l'épicerie. On achètera davantage en ligne et peut-être allons-nous recommencer à fouiner, à chercher de nouveaux produits et à vérifier leur origine. De ce que dit Francis Parisien, je retiens que les fabricants et transformateurs locaux, de même que les artisans, devront faire preuve de beaucoup d'initiative et d'ingéniosité pour conserver leur mince part de marché et, idéalement, la développer. L'utilisation de technologies de pointe et l'ingéniosité devront guider leurs activités. Au revoir.